Bonjour et bienvenue dans le Bro Clash, le podcast des bros qui se clash pour cet épisode numéro 36. Je suis Laurent.
Et je suis Arnaud.
Et donc on se retrouve après le dernier épisode qui nous avait emmené dans les étoiles. On va revenir un peu sur Terre, alors faut voir dans quel état. Donc après le Star Trek et puis un petit hors-série, nous voilà de retour. Parce que vous m'avez gentiment fait gagner le Star Trek, ça c'est cool.
C'est une honte.
Et du coup, on a décidé, quitte à parler de monstres sacrés, de vous parler de monstres, mais de vrais cette fois, en l'honneur de Kaiju, en vous parlant de Godzilla, les versions américaines. Mais avant de plonger dans tous les monstres qui composent la galerie de Godzilla, parce qu'il n'est pas tout seul, heureusement.
Kaiju.
On va faire les coups de cœur. Et puis, je vais commencer avec une chaîne YouTube voilà, que j'ai découverte à Frames, le formidable festival de vidéos à Avignon, évidemment, dont j'ai déjà parlé ici. J'y suis allé un peu parce que j'avais pas un trou dans l'emploi du temps, mais pas loin, quoi. C'est-à-dire que... Parfois, dans les activités, sur des festivals comme ça, où il y a plein de choses à faire, bah, il y a des fois un creux où on voudrait faire ça, puis ça a commencé, puis on attend le suivant. Bon, je savais pas trop, je connaissais pas le YouTuber, ce qui est aussi le plaisir des fois de Frames, de rentrer dans une salle sans connaître. Et donc, j'ai découvert un jeune gars qui parle de jeux vidéo. Alors, c'est pas, j'aime bien ça, mais enfin, pas beaucoup. Enfin, c'est pas ma grande passion. Je ne suis pas Barbarous. Et ça s'appelle The Great Review. THE GREAT REVIEW. Il parlait d'un jeu qui s'appelle Tunic. Voilà, un jeu très particulier. Et il a une force de narration qui est assez agréable. C'est-à-dire qu'on l'écoute. Il est souvent en voix off, parfois en face cam. Mais il a un truc dans la narration qui est vraiment, vraiment sympa. Et il a fait, il y a un mois, une vidéo qui s'appelle Le meilleur film de tous les temps. Alors vous imaginez bien le côté un peu poète-poète. Qu'est-ce que c'est que le meilleur film de tous les temps? Et en fait, il parle de la fameuse liste là, que j'ai oublié, qui est faite par un magazine américain, Hollywood Sight, je crois, un truc comme ça, où très longtemps, c'était Citizen Kane qui vient d'être détrôné par Sueur Froide.
Logique.
Voilà. Et tout d'un coup, il rentre dans la discussion en disant pourquoi on dit que c'est le meilleur film de tous les temps. Et c'est vraiment bien fait pédagogiquement. Et c'est bien expliqué, il y a vraiment un truc, et finalement au départ il part d'un biais où lui il est un peu déclenché en se disant ouais, il n'y a que des vieux films, comment ça se fait, voilà, parce qu'effectivement Citizen Kane, La mort aux trousses, In the Mood for Love, alors In the Mood for Love est plus récent, mais voilà, tout d'un coup il se pose la question, et c'est vraiment bien raconté, et je trouve que ce mec là, je sais pas, il fait pas beaucoup de vidéos, c'est pas régulier, il en fait tous les quelques mois, mais il y a vraiment un truc de narration très agréable, donc là je vous recommande vraiment la dernière, et même dans des trucs où a priori, ça ne m'intéressait pas. J'ai vu un truc sur Dark Souls. Alors, je ne joue pas à Dark Souls, je sais ce que c'est. Sur un mec qui fait une run parfaite, sans se faire toucher. Voilà, enfin bon, un truc.
Mais... Dark Souls ?
Ouais, non, mais.
Mon Dieu !
Un russe un peu cinglé, visiblement. Mais vraiment, voilà, il y a un truc dans la narration. Et ce mec-là, moi, je l'ai vu sur scène. C'était bien, mais il est. Ça m'avait pas, j'avais trouvé ça hyper intéressant et la vidéo m'avait plu sur scène. Elle n'était pas tout à fait finie de monter parce qu'il a modifié un peu la fin, je crois, pour le jeu qui s'appelle Tunic. C'est un petit renard, je vous recommande aussi. J'ai très envie de l'acheter, mais alors c'est une espèce de RPG à trois lectures différentes. Enfin voilà, bon, bref. Mais vraiment, vraiment un truc sympa. Donc The Great Review sur YouTube, comme quoi on peut encore faire du YouTube un peu sympa, même en n'étant pas le plus original du monde. Mais voilà, vraiment, The Great Review, c'est très sympa. Le frame, ça nous a permis de voir, parce que je pense que j'en ai peut-être pas parlé depuis, je sais plus si on a refait des épisodes, mais ça a permis de faire un cut en public avec François Turel et toute sa clique, que je vous recommande d'aller voir aussi sur Le Seigneur des Anneaux. Donc voilà. Bon, alors, et toi, ton coup de cœur, Arnaud, c'est quoi?
Alors, mon coup de cœur, c'est d'abord un livre qui est chez Taschen.
Ah.
Qui s'appelle Les archives Stanley Kubrick.
Ah, mais je...
qui existe en deux éditions, en édition XXL.
XXL. Ah, c'est déjà gros Taschen, normalement, hein.
C'est déjà gros, c'est du... Là, c'est comme ceux qui connaissent les livres Star Wars, les archives, bah, c'est la même logique. C'est-à-dire que c'est des grands formats. Quand tu ouvres à plat, c'est super agréable à lire. Ce qu'il y a de bien chez Taschen, c'est qu'ils offrent à côté des éditions à 25 balles où tu as tous les textes et l'iconographie reproduits en plus petit, mais surtout tu as tous les textes parce que c'est des livres tellement beaux que je dois avouer que mes Star Wars archives pour les prélogies et prélogies, les grandes éditions, elles sont toujours sur leur joli carton de présentation rangé sur l'étagère.
Et tu sais pas quoi, je me suis fait la remarque l'autre fois. Parce que je l'ai vu chez toi. Et je me suis dit, mais c'est con, ils sont en carton les trucs, quoi.
Bah oui, mais non, mais j'ai les éditions à 25€ en format poche pour les lire quand j'en ai envie. Parce que c'est vraiment super intéressant. Et j'avais vu celui de Stanley Kubrick à 20€. Alors là, par contre, j'avais plus envie de me prendre l'édition petit format. Mais au moment où j'ai plongé sur le site, je suis tombé sur un truc qui m'a vraiment... Mais... qui à la fois me fait exploser le cerveau et qui risque pas d'être acheté parce qu'il va aussi me faire potentiellement exploser le porte-monnaie. Ils annoncent pour février 2023 un livre uniquement sur Stanley Kubrick's The Shining.
Juste sur Shining.
Juste sur The Shining. Alors au début, je me suis dit, mais bordel, ils sont à 1 500€ pièce pour 1 000 exemplaires maximum dans le monde. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'y bide? Mais non, pourquoi? Et il y a donc des facsimilés, des documents d'archives, des fascicules de croquis originaux, en tout en facsimilés, bien sûr. Il y a 2198 pages pour 20 kilos de bouquins dans un format gigantesque. Mais mon Dieu, entre mon amour de l'édition du papier et de ce film, on en a déjà parlé d'ailleurs, et c'est aussi une des raisons dont on avait parlé avec la sortie de Dr Sleep, et puis on avait fait l'émission spéciale avec Emily de Stephen King France. Ce truc est hors budget, soyons clairs. Mais bordel de merde que ce livre me ferait quand même bien envie, entre l'objet et le contenu, quoi. Voilà, c'était à la fois un coup de cœur, parce que les éditions Taschen font quand même des trucs assez...
Franchement, il faut être super honnête. Il y a les archives de Kubrick à 20€, il y a des choses, des choses abordables. Il y a un autre truc d'ailleurs, c'est quoi? C'est un tableau ça? Ah non, c'est un tableau ça, je crois.
Oui, après il y a des tirages noir et blanc. Moi, j'ai vu qu'ils faisaient maintenant des tirages noir et blanc, même de films de James Bond par exemple. Je dis ça, je dis rien. Mais voilà, mais non, mais c'est sûr que c'est pas une bonne idée nécessairement, mais bon, c'est vraiment, je trouve que c'est un bel objet. Alors après, c'est la première fois à voir les fonds. Faut quand même savoir que c'est le genre de truc que tu vas le feuilleter et lire une fois après que tu vas gentiment remettre dans sa boîte et reposer sur l'étagère. Là, je serais curieux de savoir si ce coup-ci ils vont faire une édition au moins du contenu textuel.
Je vois qu'il existe un Rocky à 1750.
Oui, l'intégrale qui s'arrête à Creed. Voilà. Pareil, qui est dans la même logique avec des extraits de...
Il y en a signés par Sylvester Stallone, mais bon...
Ah non, ils sont tous numérotés et signés par Sylvester Stallone, hein.
Ah putain, la vache.
Ils sont tous. Et il y en avait...
Je connaissais Taschen, je savais que c'était un très beau livre. C'est vrai qu'alors après, je crois que c'est une maison d'édition qui a commencé avec l'art, qui a fait des livres d'art qui sont magnifiques depuis longtemps. Après, ils se sont mis à la culture, le cinéma, les choses comme ça. Alors après, chez qui ça va en fait? C'est la question, pourquoi sortir des trucs pareils, quoi.
Voilà, donc c'est... Alors l'édition limitée qui est actuellement encore en stock, c'est la version collector numérotée de 51 à 1976, c'est important, parce que c'est la seule série qui est signée par Sylvester Stallone.
1976 étant, je crois, la date de Rocky d'ailleurs, un truc comme ça. Bon.
Voilà, du premier, je crois que c'est ça. Et en vérité, il y a en plus dans ceux-là, il y a une peinture de Stallone qui fait Finding Rocky. Ouais. Et un facsimilé de 36 pages des notes manuscrites prises pour Rocky par Sylvester Stallone. C'est un truc à 11 kilos aussi. Hein, donc je veux dire, c'est pareil. C'est des éditions de ouf, quoi. Mais
ça pose une vraie question. C'est vrai que... Parce que...
Ce qui me frustre, moi, c'est que tout ce contenu, qui doit être passionnant, les facsimilés de scénarios, de croquis originaux, surtout les croquis pour Shining, quoi. Quand on en a parlé dans le cadre de toutes les théories qui existent autour de la production et des messages qu'aurait potentiellement glissé Stanley Kubrick dans le film, c'est vrai qu'accéder à des facsimilés de ses notes, ça peut que donner envie. Après, 1500 boules, quoi. Et il n'y a pas les frais de port, hein, parce que pour des frais de port, pour un bouquin de 20 kilos...
J'ai trouvé un petit livre qui pourrait te plaire aussi. Hein. Il est moins cher, il est à 1250. Pour cher Liger.
Oui, alors, c'est... celui-là, je l'ai déjà vu aussi. Hein. Alors, par contre, celui-là, je l'ai vu. Hein. Il y a un James Bond archive No Time to Die édition à 150 euros, par contre.
Après, 150 euros, c'est cher, mais je trouve ça... ça peut donner envie, 150 euros.
C'est les prix de mes archives Star Wars conformes.
C'est un investissement, c'est des beaux livres, ça va. Mais là, je trouve que 1500, c'est...
Oui, il y a un zéro.
Non, mais d'accord. Ah, c'est une vraie question. C'est, voilà.
Bon. Voilà. Mais dans tous les cas.
En Tachon, si vous en trouvez, peut-être d'occas, peut-être de trucs foncés, c'est vraiment des choses magnifiques.
Alors, d'occas, je ne sais pas pour ce qui est pour les grosses éditions, mais pour les plus petites, je sais que c'est. Je vous donne un autre truc sur Recycle Livre. Des fois, on les trouve. Hein. Recyclelivre.fr. Ouais, voilà. C'était donc mon coup de cœur.
Oui. Eh ben on attaque. C'est parti pour les Kaiju.
On se fait attaquer par les monstres.
C'est parti. Donc on attaque avec Godzilla. Alors Godzilla, c'est pas une nouveauté. Hein. Godzilla, c'est un vieux monsieur qui est né en 54, je crois.
Oui.
Sur les premiers films, j'avais recommandé, je crois, un jour dans un coup de cœur, un bouquin de Fabien Moreau.
Justement sur Godzilla.
Qui faisait Fab Fudd sur Godzilla. Alors sur le créateur de Godzilla.
Tomoyuki Tanaka. Isoro Honda. Ishiro Honda. Voilà. Parce que on ne peut pas. Ni parler Kaiju, ni parler de Godzilla, sans évoquer ces trois-là, quoi.
Alors forcément, avec une trentaine de films dans l'époque... Alors évidemment, regarder des films aujourd'hui qui sont des années 50, 60, même 70 de Godzilla, c'est particulier, hein, voilà. Parce qu'on était quand même sur un mec en costume, hein, pour être très clair. Mais il y avait des choses très fortes. Il y a des thématiques écologiques, nucléaires, vraiment très très fortes dans les premiers Godzilla. Et puis, je pense qu'avec le côté... il a un moment perdu un petit peu en... Comment dire ça ? Il a un peu perdu dans les années 90-2000. On n'entendait plus trop parler. Il y a eu d'autres monstres. Alors, il continue à en produire quand même, mais c'était pas...
Ça restait du film de niche dans les années 80, à partir de la fin des années 70.
Oui.
On est quand même... Déjà, le personnage a eu droit à une... comment dire ? Déjà, au Japon,
il y a eu des merdes reboots, quand même. Hein.
Parce qu'à partir de 60... grosso modo 67 de la planète des monstres, où Godzilla est sur une planète qui n'est plus la nôtre, ça devient un peu compliqué. Même si on a toujours... Ishiro Honda reviendra dessus en 68 et 69. Il reste quand même très très associé. À partir de, honnêtement, les 70, c'est tentative de retour, tentative ratée. Mais ça pose une partie, ça fait partie aussi de l'univers de Godzilla, puisque ça va être un reboot, entre guillemets, puisque dans les années 80, on aura le retour de Godzilla, le Godzilla contre King Ghidorah, qu'on va retrouver, nous, dans ce dont on va parler, Mothra, Mechagodzilla. Godzilla versus Space Godzilla, et voilà quoi.
Ah non, mais bon, ça part un peu en
fin 80, fin alors 90, on aura une tentative de sauvegarde de relance américaine avec le Godzilla de Roland Emmerich.
Ah, c'est 98.
Alors, celui-là, le look était tel. Alors, on avait, ce coup-ci, on avait enfin les effets spéciaux qui vont bien.
Alors, évidemment, ça passe après 93 et Jurassic Park, hein, qui est quand même fondamental pour faire des créatures comme ça. Parce que le Godzilla d'Emmerich, outre d'être un film de Roland Emmerich, ce qui est déjà pas en soi une bonne idée, en plus, il avait quand même un gros look de lézard.
De T-Rex.
Faut bien le dire quand même. Hein, de T-Rex. Avec en plus. Alors, ça a bien marché, hein. On va être très, très clair entre nous, ça a bien marché. Bon, nous, il y avait le côté Jean Reno en français qui s'appelle, je ne sais plus comment, là, c'est ridicule. Il l'appelle comment
Philippe Rachet.
Ah, il a un nom.
Rocher.
Philippe, voilà. Enfin bon, voilà.
Et au moins, il ne s'appelle pas Pierre.
Oui, il ne s'appelle pas Bézufage comme dans Da Vinci Code, quoi, mais bon. Mais voilà, bon, les critiques étaient très mauvaises. Ça avait été une machine aussi médiatique. Tout le monde se souvient de Jamiroquai, de je sais plus, il y a un rappeur dont j'ai oublié le nom, qui était associé avec sur une BO qui avait rien à faire avec là, mais voilà. Et puis il a fait une petite série d'animation que moi j'aimais bien, qui était marrante. Je trouvais qu'il marchait mieux en animé finalement comme look.
Oui,
et
puis ça allait avec le style à l'époque du dessin animé, voilà. Qui était vraiment pas mal, ouais.
Donc les Japonais continuent à en faire un petit peu après, c'est
vrai. Ils reprennent en main la licence parce que j'ai jamais. Il y avait eu une histoire avec la Toho qui avait donné l'autorisation pour un seul film, qu'il avait indexé sur les résultats ou je sais pas quoi. Et comme malgré tout, le film a plutôt bien marché pour l'époque, qui fait 120 millions de dollars ou je sais plus quoi, un truc comme ça au box-office, enfin un box-office plus qu'honorable pour le budget. Mais la Toho trouve que le traitement l'éloigne beaucoup trop. Du traitement japonais,
ah bon,
ce qui est tout à fait vrai, puisque là on est vraiment dans un actionneur américain, un film d'action des années 80, 90, quoi, avec des personnages à la con, des trucs ridicules. Alors, le côté truc ridicule, c'est difficile de pas dire qu'il n'y en a pas dans Godzilla avant, mais là c'était vraiment. C'était too much. Ils refont un petit run avec les Godzilla de Takao Kawabara.
Alors, il y a quand même un truc aussi où ça va s'arrêter, parce qu'il faut se rappeler, une fois de plus, on le dit souvent, 2001, c'est les attentats du 11 septembre. Mm-hmm. Et là, tout d'un coup, les destructions massives d'immeubles, il y a un moment où on va un peu lever le pied, en fait. Même les studios américains vont être, ou en tout cas, pas le traiter de la même manière qu'avant, où on pouvait s'amuser à tout péter, Emmerich en tête, hein,
oui.
Independence Day, machin et tout. Post-2001, on commence à se dire, bon, on va essayer de faire ça plus sérieux. Mm-hmm. Et puis, effectivement, il y a vraiment un creux après 2003-2004. Mm-hmm. Je crois même qu'il y a des animés pour moi dans mes souvenirs. Non, c'est encore des films.
Ouais.
Et finalement, ils n'arrivent même pas, d'ailleurs, on en parle encore, mais on n'arrive pas à fêter les 50 ans, parce que du coup, voilà, c'est pas ouf. Et en 2014, et c'est là où ça commence à nous intéresser.
Je voudrais juste...
Vas-y.
Il y a un Godzilla Final War qui est le dernier full japonais de production, enfin pas tout à fait, mais qui est plutôt sympathique à voir. Lui aussi qui est le dernier officiel full japonais, Godzilla Final War, qui est assez sympa à regarder, qui est un espèce de film un peu somme, on va dire, entre guillemets, je sais pas comment dire, sur l'histoire de Godzilla, quoi. Et du coup, c'est vachement, il est très très sympa à voir, il est récent, les effets spéciaux tiennent le choc, il date de 2004, voilà. Ça peut être sympa de se le mettre dans l'œil avant d'attaquer.
Ouais.
Les nouveaux Godzilla. J'ai quand même à préciser un truc, c'est que ce Godzilla a été lancé par la Warner et la Toho en partenariat. Il s'agissait pour Warner de créer le Monsterverse. En clair.
Dès le départ, tu crois qu'ils avaient.
Dès le départ. Le Godzilla de Gareth Edwards, on est en 2014. La Marvel commence à. Cartonné.
Ouais, donc ils
dès
disent,
le départ. De toute façon, tu le vois au logo. C'est con.
Ouais, c'est pas faux. Oui, non, c'est vrai.
Et c'est dès le départ. Alors, c'est pas dit au tout début, mais dès que le film cartonne sur son premier week-end, c'est officiel.
Ouais, oui.
Et du coup, c'est une. Alors, c'est une. On va juste finir avec le Monsterverse.
Ouais.
Enfin, on va juste faire un sur le Monsterverse en tant que tel. C'est probablement. La franchise hors Disney, la seule qui fonctionne actuellement.
Alors effectivement, d'abord ils sortent régulièrement.
Eux.
Voilà, pour pas évoquer Avatar, qui est très bien, c'est pas la question, mais bon, 13 ans entre deux films, c'est quand même beaucoup, faut bien le dire.
Ça pour raconter l'histoire de gosses.
De sales gosses, mal élevés en plus. Mm-hmm. Après, eux, ils ont un rythme. Alors, je trouve que la particularité, c'est qu'ils se lancent là-dedans et ils vont chercher Gareth Edwards. Et Gareth Edwards, à l'époque, il est l'auteur d'un seul film qui est Monsters, qu'on a vu en salle, je pense.
Oui.
Qui est très réussi. Alors qui est l'archétype du truc où c'est un film de monstre où on voit pas le monstre.
Voilà.
Et d'ailleurs, on va en reparler pour Godzilla parce que c'est un des problèmes, même si moi j'aime beaucoup, c'est un des problèmes de Godzilla aussi. Hein.
Alors, et du coup, est-ce que c'est un problème ?
Je sais pas parce que j'aime le film, donc voilà. Mais du coup, il y a vraiment un côté, ce truc-là de d'un couple paumé qui cherche et puis qui, dans une ville dévastée, mais dont on voit pas le monstre, on l'entreaperçoit, je crois, au fond. Il me semble qu'il y en a même plus. Enfin, il y a vraiment tout un truc assez malin. Mais du coup, ils vont pas chercher un gros faiseur de moche. Et ils prennent Gareth. Évidemment, Gareth Edwards aura aussi son quart d'heure de gloire après avec Rogue One un peu plus tard, où il s'éclatera sur les échelles, parce que la force, moi j'aimais bien Rogue One aussi, c'est la première fois qu'on voyait le gigantisme dans Star Wars, je trouve. Et du coup, c'était bien choisi.
C'est logique d'échelle qu'on commence enfin à utiliser dans le numérique. En réalité, je trouve que c'est plutôt... Il y a un des trucs qui amène Gareth Edwards avec son Godzilla, c'est justement le rapport au gigantisme, c'est quelque chose qu'on n'avait pas trop avec les effets numériques jusqu'ici. Déjà parce qu'il y avait une grosse peur des grandes focales et des grandes. On les avait sur des plans larges. On les avait rarement avec des personnages en avant-plan en jouant sur la profondeur de champ. Et c'est vrai que Gareth Edwards, dès Monster d'ailleurs, joue énormément avec ça. Sur le hors-champ et sur une profondeur de champ ou sur des effets ou des choses distantes. Quoi. Mmh. Et c'est vrai que c'est extrêmement intéressant. Quoi.
Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il ne. Je trouve que alors c'était le Godzilla d'Emmerich, pour tout vous dire, j'en ai vu 20 minutes au début, ça m'a fait suer, j'en ai des souvenirs très vaguement, mais là je trouve que Gareth Edwards est le scénariste. Alors il y a même Frank Darabont qui a collaboré sur le script, hein, quand même. Mm-hmm. Godzilla,
bon, Frank Darabont.
Voilà, Godzilla est une créature japonaise, ça veut dire qu'il y a Ken Watanabe qui fait le japonais un peu
de service.
Un peu cliché, il faut bien le dire.
De service, quoi.
Mais qui voit Godzilla comme un dieu. Mais il y a un truc où, il y a Godzilla, c'est Tokyo. Enfin, cet aspect-là de Godzilla n'est pas renié du tout. On a quand même Bryan Cranston dans le lot, hein, c'est pas mal. Mm-hmm. Aaron Taylor Johnson, qui n'était pas hyper connu, qui est le jeune de Kick-Ass, qui avait un peu tiré de la fonte là, pour le film, hein, quand même. Voilà. Donc, il y a un casting qui est pas mal. C'est pas...
C'est pas ouf.
C'est pas un casting, c'est pas de la grosse star, mais il y a une vraie volonté. Par contre, il y a un truc de. D'abord, la bande-annonce n'annonçait pas les autres monstres. Parce que dans Godzilla, il y a Godzilla, mais il y a surtout deux mutos. C'est ça, c'est les mutos. Qui n'étaient pas annoncés dans la bande-annonce du tout. Donc on pensait que ça allait être l'homme contre Godzilla, machin et tout. Et en fait, pas du tout. C'est Godzilla contre les mutos. Et il y a beaucoup de scènes de combat qui s'arrêtent, qui sont vues à l'échelle humaine. Et je me souviens, moi, d'un truc où ils se cachent dans un espèce d'abri souterrain où Godzilla arrive, on voit les mutos et les portes se ferment. Et après, on verra le combat à la télévision, en fait.
Exactement.
Et c'était très osé de la part de Gareth Edwards. Je trouve que ça marche très bien. Mais alors, pour les gens, moi, je vais discuter à l'époque, je crois que c'était avec Johan, bref, peu importe, qui m'avait dit, mais moi, je veux voir du monstre, quoi. Je veux voir du monstre et j'ai été déçu sur le film. C'est quand même 2 heures et il y a, j'exagère, mais il y a un quart d'heure, 20 minutes peut-être de monstre. Hein. Voilà, avec des scènes très belles, avec des choses très belles. Il y a tout le monde se souvient d'un saut en parachute sur une musique.
En haute altitude,
ils descendent avec des torches dans les nuages autour de Godzilla, avec une musique un peu qui était une musique d'ailleurs d'un Kubrick. Je sais plus lequel, c'est du Ligeti, enfin une musique très dissonante et tout, c'était magnifique. Mmh. Mais donc il y avait des trucs d'auteur, des trucs très
autorisants,
très expérimental dans un film où t'as des gens qui voulaient voir de la bagarre de monstres.
Faut quand même imaginer en plus que quand ce Godzilla de Gareth Edwards avec ce traitement graphique arrive, on est un an après la sortie de Pacific Rim. Donc des gros monstres plein pot qui se tabassent dessus. On est à fond dedans. Entre guillemets, dans une forme d'exploitation. C'est vrai que le choix de Gareth Edwards de ne pas faire ce traitement-là est, un, pour moi, je trouve déjà très malin. Deux, vu la qualité du résultat, est d'autant plus malin. Et trois, je pense qu'aussi, c'est aussi une forme de respect vis-à-vis du monstre, sachant que jusqu'ici, son traitement visuel, même dans les versions de la Toho, était pas aussi organique, pas aussi physique, aussi finalement aussi fort visuellement. Il était Godzilla, mais il était, on va dire parfois, très souvent un prétexte à des scènes de... Là, il est vraiment... Il est monolithique, il est un... C'est comme si tu es au pied d'une pyramide et que tu ne vois pas le haut, ni à droite, ni à gauche, parce que tu es trop près. Et il y a ce côté massif, ça, vraiment incontournable au sens strict, qui est très très bien géré, et qui est une des vraies forces du film, qui est une des vraies qualités du film. Mais indirectement, ce choix de traitement-là du Godzilla, bah, ça l'éloigne de son origine japonaise. Parce qu'il n'a jamais été traité comme ça.
Là.
Il n'a jamais été traité de cette manière-là. Il était au contraire, il fallait qu'il apparaisse, il fallait qu'il soit en majesté, parce que c'est Godzilla. Godzilla, c'est le dragon roi.
Il y a un rapport compliqué. Alors oui, effectivement, on peut penser que Pacific Rim s'inspire un petit peu de...
Non, c'est assumé. Non.
Oui, mais il y a un côté...
Alors, mais sauf que c'est pas de Godzilla. C'est plus des films le nom va m'échapper. Spectroman et tout ça. On est plus dans ces robots-là, dans Robo et Kaiju, là, ce nom m'échappe complètement, de ces séries de films japonais, ou ces séries et ou films de combats de monstres contre des robots gigantesques. Ouais,
je suis d'accord, parce que le Gareth Edwards, c'est très sérieux. Quoi. Alors, moi, c'est marrant, c'est que ce truc-là, c'est pas le début de Godzilla. Godzilla, on rappelle, évidemment, Godzilla, c'est la menace nucléaire. Évidemment, Godzilla, quand c'est fait en 54 par les Japonais, c'est le Godzilla est un crash du feu nucléaire et né dans une espèce de
magma nucléaire. Il est né de Hiroshima, c'est pas du tout
donc c'est pas drôle, voilà, c'est pas fun. Alors évidemment quand Guillermo del Toro il fait ça brillamment, hein, on entend bien la preuve, hein, quand c'est pas Guillermo del Toro qui fait le même sujet, il paraît que c'est moins bien. C'est clairement un gamin qui joue avec redonne-moi le nom de Goldorak en japonais, c'est quoi
C'est pas grave,
tu vas retrouver le temps que je dis. On a vraiment l'impression d'un gamin qui joue avec ses jouets et qui pète tout, quoi. Parce que là effectivement, oui. 2001 et les plus loin, on commence à pouvoir péter de la ville un peu plus... avec plus de décontraction, on va dire. Hein. Voilà, et on se pose moins la question. Mais Gareth Edwards, il y a un truc. Alors, le film fonctionne, hein, mais je pense qu'il y a une partie du public qui est restée à côté parce qu'il y a une frustration... De pas voir de monstres plus que ça. Alors, est-ce que déjà ils savaient qu'ils allaient faire des suites, etc. Peut-être. Hein. Peut-être qu'on lui a dit introduis un peu l'univers. Alors, moi je trouve qu'ils lui ont laissé le faire de garder un truc caché, alors qu'aujourd'hui on peut montrer les choses et les suites nous montreront que oui, aujourd'hui on peut montrer des monstres en gros plan. Aujourd'hui c'est visuellement tout à fait acceptable. Alors après, ça peut être plus ou moins bien fait, mais on peut montrer aujourd'hui des choses. 2001, il y avait eu le Balrog 10 ans avant. Enfin, voilà, il y avait eu des choses visuellement réussies avant.
Alors, au moment de la sortie du Warner Bros. Legendary, ils ont un accord avec l'ATO, Warner Bros., pour créer donc leur Monsterverse, parce qu'en fait, ils veulent faire enfin la vraie jonction avec King Kong. Dès le départ, c'est dans l'idée. Ils annonceront le Monsterverse qu'après quelques semaines d'exploitation, quand ils verront les résultats, qui vont quand même super bien marcher. Voilà. Parce qu'on parle d'un box-office mondial d'à 529 millions de dollars. Mais
quelque part,
même,
c'était attendu, et puis je pense que le public... C'était attendu,
je ne sais pas. Au fait, ça me revient, le compositeur, c'est Desplat. Alexandre Desplat sur le premier.
Alors, la musique dont je parle, c'est du Ligeti, hein, c'est inspiré de...
Oui. Mais on est... Ils avaient dans l'idée de... après, c'est vrai que... C'est une des rares franchises hors Disney qui marche vraiment. Alors bien sûr, ça fait pas les chiffres des autres, mais on a des box-office qui sont cohérents, sauf petite baisse sur le troisième.
C'est des coûts.
Mais c'est très bien construit, il faut être super honnête. Alors, moi, on va venir quand même au point d'achoppement. On parle de quatre films, donc du Godzilla de Gareth Edwards, de Kong Skull Island, de Godzilla 2 Roi des Monstres et de Godzilla vs Kong. On démarre en 2013, on finit en 2021 pour la sortie du dernier. 2014, pardon, jusqu'en 2021.
En 2011, on a eu Fukushima aussi.
Voilà, on est sur une série de films qui sont... Alors, je vais être super honnête, je ne bouderai pas mon plaisir. Je trouve ces films très sympas, je trouve que ça défonce visuellement, c'est extrêmement maîtrisé. Ouais. Y a des effets au niveau des monstres, ça a des effets d'intégration du réel. Je suis désolé, y a pas beaucoup de films, même avec des budgets équivalents, actuellement, qui gèrent aussi bien les effets spéciaux.
Beaucoup.
Aussi bien
moi,
les intégrations des échelles.
Que j'ai vu, alors j'ai pas tout vu parce que
bien
parce
plus
que
dégueulasse.
J'ai autre chose à
tout à fait raison.
Transformers. Enfin, j'ai vu le premier, ça m'avait cassé les pieds. Je trouve ça moins réussi. Alors, est-ce que j'ai moins d'affection pour ces robots machin? Et alors que je trouve, moi, il y a un truc génial. Et puis moi, je trouve, ils ont quand même gardé, c'est pour ça que je trouve que ça reste quand même un truc intéressant. Ils ont gardé les thématiques écologiques qui sont plus que jamais d'actualité en ce moment. Ils ont gardé ce côté Dieu, ce côté... Alors évidemment, c'est un peu Ken Watanabe qui nous fait le japonais en disant « Non, mais il faut lui parler gentiment, il faut... » voilà, l'espèce de respect qu'il a de déification de Godzilla, voilà. Qui effectivement, dans le premier, qui est vraiment... il détruit les humains. Alors effectivement, quand on bascule sur le 2, le projet, il y a presque l'impression qu'on change un peu de projet, presque. Finding the origin of these creatures is essential to mankind's survival. The interior of the Earth is made up of vast caverns and air pockets, joined by natural avenues. The Admiral begins his expedition, searching for an entrance to a hidden world. The purpose is the discovery and the release to the world of the unknown treasures of Antarctica in the interest of all mankind. Members of the Lost Party were never seen again. Still no word on what may have happened. There's an ecosystem out there, the likes of which we can't imagine. And the place to find it is this island.
Alors, je sais pas.
D'abord, ils font
parce que
ce qui est marrant, c'est qu'ils font Skull Island avant, en fait. Ils font Godzilla. Pour moi, à la fin de Godzilla, il y a même des images de enfin, il essaie des trucs de l'île du crâne, quoi. Voilà. Alors, on avait eu un Peter Jackson qui avait fait un King Kong.
Alors, finalement, qui était un remake du film, là, pour le coup.
Qui est vraiment un remake, qui est vraiment parce que ça se passe dans les années 20, parce que dans les années 30, plutôt, je sais plus, qui est vraiment le truc de le cinéma à l'ancienne, le film d'aventure à l'ancienne, voilà. Kong, le King Kong de Peter Jackson, c'est autant un hommage au cinéma, je pense, qu'un hommage au film que lui a...
C'est un super film tellement sous-estimé, à mon avis.
Quasiment celui de 33 de Cooper, je crois qu'il s'appelle, il me semble, le premier. Faut se rappeler que Kong, à l'inverse, on a eu des remakes en 76 avec Jessica Lange.
Oui, mais Kong, attends, on en revient à la question, on en revient
au projet
Monsterverse de base, et au projet de base, c'est que Kong, c'est une licence Warner.
Oui, il devait avoir les droits, oui.
Voilà, il y avait déjà eu dans les films Godzilla, un Godzilla versus Kong dans les années. Je sais plus, je perds le fil. Assez tôt, finalement. Attends, que je te dise pas de conneries, du coup je me reprends. Dès 62, on avait.
C'est pas les meilleurs à voir.
Non.
Ça pique fort les yeux, quand même. Parce que alors, là, on est sur.
Oui, non, moi j'adore.
Mais là, on est sur deux mecs en costume qui bagarrent, quand même. Hein.
Oui, moi j'aime bien, je trouve ça rigolo. Mais j'aimais Spectreman déjà, donc je n'ai pas de souci avec ça. Non, voilà, et c'est la seule fois où ils vont se merger, même si on a souvent eu des monstres un peu dérivés qui invoquaient King Kong. C'est vrai que quand la Warner passe un accord avec Lato, repasse un accord avec Lato, parce que, quoi que c'est pas eux qui avaient fait celui d'Edwards, de Emmerich.
Non, non.
Mais on s'en fout. Du coup, c'est vrai que ils ont, dans cette optique-là, de faire ce monstre. Comme on dit, à la fin du générique de Godzilla, on a déjà Monarch.
Oui.
On a déjà tout le lore qui va être... Alors, c'est tout l'univers qui va être mis en place autour des monstres et des méga-monstres, des titans, comme ils les appellent, et est en train de se mettre en place. Quand on a Skull Island, on a définitivement des traits communs. On a un léger ajustement du ton des films, qui va rester le même, pardon, pour les, voilà, trois, les
moi,
deux
moi,
suivants.
Moi, je trouve quand même, je suis pas d'accord, je trouve Skull Island très différent, en fait. Je trouvais le premier Godzilla sérieux, dur.
Il y en a justement du ton qui restera après.
Alors, c'est compliqué de savoir si le Kong, le Godzilla 2, le King of Monsters, c'est ça,
ouais.
Et a plus le ton de Skull Island que le premier Godzilla. C'est, à mon avis, c'est un espèce d'entre deux. Non, parce que attends, le Kong Skull Island, d'abord, il y a un casting. Là, on est clairement passé à la vitesse au-dessus. J'aime beaucoup les acteurs du premier film, hein. C'est pas la question. Mm-hmm. Mais Elizabeth Olsen, Aaron Taylor Johnson, Cranston. Non, mais ça, c'est le premier. Donc, c'est des acteurs. Pas de seconde zone, parce que Cranston est un grand acteur, mais bon, on a Juliette Binoche, mais elle fait que passer, je crois. Voilà.
Oui, elle meurt au début.
Skull Island, on a Hiddleston, John C. Reilly, Brie Larson, Samuel L. Jackson, John Goodman, quoi. Et puis alors, le ton, rien à voir. C'est la guerre du Vietnam, hein. Skull Island, c'est les années 70, Samuel L. Jackson, s'il n'a pas son bandeau sur l'œil, c'est limite, je trouve, un peu, mais qui fait...
C'est parce qu'il joue plus que comme ça, c'est aussi
oui,
un autre problème.
Oui, d'accord, ok. Mais il y a un côté où c'est un truc pulp, vraiment. Skull Island, c'est pulp. Ouais. Et je ne trouve pas les suivants pulp, en fait.
Alors, disons qu'ils vont garder un peu moins le côté pulp, mais ils vont toujours garder toujours des personnages qui vont créer un vrai décalage. Dans Godzilla 2, le roi des monstres, c'est... Alors en plus, dans sa forme, il a tendance à renvoyer aux anciens Godzilla, parce qu'on a toute une partie de l'intrigue où à un moment, les gens disent oh, « Regardez, tu vois sur des écrans, ils disent « Le monstre va par là !» Ils sont tous tout le temps, soit dans l'avion ou dans le sous-marin, mais ils se passent, fondamentalement, ils font juste que suivre et regarder ce qui se passe. Et puis après, cut, et on voit les monstres qui se tabassent. Ça, c'est très 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 Godzilla, où les humains assistent au combat des monstres, mais ne peuvent pas vraiment intervenir. De très loin. Et du coup... C'est peinard. Alors, ça, c'est une petite astuce de tournage, hein, parce que tu as tes acteurs en plateau, tu fais ton décor, tu fais des écrans numériques bidules, et puis de toute façon, après, pour les séquences de monstres, tu t'en fous, c'est du full numérique, ça vient. Alors, même si le roi des monstres, tout comme versus Kong, au bout d'un moment, on passe outre ce montage-là, et on va aller vers des choses bien plus classiques où les gens courent au pied des monstres, ce qui, des fois, me pose toujours un problème de question d'échelle et de capacité physique, mais on va passer. Et du coup d'irrespect, de changement par rapport à ce que faisaient les Godzilla japonais, et surtout de ce que fait dans le même temps Lato avec son personnage au Japon, parce que qu'on n'a pas évoqué ça, mais en même temps qu'il y a le Monsterverse, Lato relance une série de Godzilla avec le Godzilla Résurgence, Godzilla Planète des Monstres, Godzilla la ville à l'aube du combat, et le Dévoreur de Planète. Alors j'en ai vu que deux sur les quatre, je dois vous avouer. Je suis un petit peu dubitatif.
Ce qui est marrant, c'est que il y a comme un truc un peu particulier, c'est que je suis en train de penser, le premier Godzilla, donc il y a une espèce qui est... c'est marrant, Gareth Edwards arrive à faire un truc très unique, qui est ni un hommage, ni tout à fait un truc, voilà, qui est un truc vraiment. Le Godzilla, pour moi, le premier, il a vraiment son identité que rend pas les autres. Mm-hmm. Kong Skull Island, c'est un film américain, hein. C'est tout, hein. Il y a vraiment
oui, oui.
Il est rattaché après, parce qu'ils vont en faire venir évidemment sur le troisième, sur le quatrième, Kong versus Godzilla, mais c'est vraiment un film américain, là où le Kong King of Monsters reste dans les racines un peu japonaises, même si alors là, autant les gens qui se plaignaient de pas voir des monstres dans le premier, autant dans le Godzilla 2 King of Monsters, du monstre il y en a, ils y sont pas tous là, mais enfin
quasi.
Alors moi, ce que je trouve génial, et je quitte un peu le Skull Island que j'aime bien, mais Skull Island est over the top, hein, tout le temps. Enfin,
ouais, moi c'est quand même mon préféré.
Ouais,
des quatre,
mais hein. C'est un film, c'est quelque part, c'est le film qui sert à introduire King Kong
et tout monarque.
C'est vrai.
Et la structure
de
monarque aussi.
Il y a un côté où ils se font plaisir, et c'est des mercenaires. C'est pas les sept mercenaires, mais enfin c'est vraiment une espèce d'équipe. Si, c'est Predator, en fait. Il y a un côté, c'est l'équipe de...
Oui, voilà. On est plus près de Predator, oui, que des sept mercenaires. Oui.
King of Monsters, il y a vraiment le côté, ils sont tous là. C'est quand même des films qui manipulent des mythes géantes, parce que Mothra, c'est une mythe. Hein. Enfin, c'est une espèce de papillon mythe. Mm-hmm. Alors, il y a tout un côté avec la famille, une fois de plus, avec en plus, on a Millie Bobby Brown, qui est devenue connue grâce à Stranger Things. Donc, elle a gardé ce côté un peu fantastique, machin. Moi, je trouve le casting, une fois de plus... Alors, on est redescendu un peu par rapport à Skull Island. Hein. On est sur des acteurs hyper sympas, mais un peu plus de... J'allais dire de seconde zone, je suis un peu méchant avec eux, mais un peu plus...
On va dire liste B.
Mais il y a Kyle Chandler, je trouve, qui est absolument génial. Alors, qui fait toujours triste. Il y a toujours un côté où... Voilà, Vera Farmiga. Il y a le génial Charles Dance qui fait le méchant, qui est le méchant de la Action Hero. Voilà. C'est très marrant parce que d'ailleurs, il y a des méchants et des gentils humains. Voilà, il y a tout un débat sur... sur qu'est-ce qu'on fait des monstres, en fait, c'est ça qui est très intéressant. En fait, et au bout d'un moment, en fait, on en a un peu rien à foutre. On dit, vous savez pas quoi, montrez-nous Ghidorah se fighter avec Godzilla et puis on y va, quoi. Parce que par contre, c'est vraiment une espèce d'orgie de ouf entre Godzilla, Ghidorah, Mothra, Rodan, qui est l'espèce de dragon et tout. C'est un vrai plaisir, quoi. C'est un truc. Et je m'attendais pas, moi, à ce qu'ils développent. Ce qu'ils vont développer dans Kong Skull Island encore plus sur l'univers, et je trouve qu'ils arrivent vraiment à développer l'univers de manière très impressionnante. D'ailleurs, je crois que c'est dit, Mothra, donc le machin à trois têtes là, non, Ghidorah, pardon, c'est le truc à trois têtes, je crois. Ghidorah, Mothra, c'est la mythe, c'est un extraterrestre en fait, c'est pas un titan.
Oui. Tous les autres sont des titans, Ghidorah viendrait de l'espace. Et c'est un alpha dominateur qui serait pas de la Terre.
Amener tout ces trucs-là où... Ok, alors... Au bout d'un moment, on peut se demander à quoi servent les humains, en fait, dans ces films-là, des fois, au bout d'un moment.
Bah, en vérité, ils justifient le fait que les monstres aient le droit de se taper dessus. On en revient à ce que je te disais, qui est le traitement des personnages. Et pour moi, ce qui fait une énorme différence avec les films traditionnels de Godzilla... la structure dont ils ont été utilisés, on a toujours des scientifiques, on a toujours des scientifiques qui ont raison et que les autres ont tort, les autorités qui se trompent. Même si plus ça va aller, moins les autorités vont se tromper et plus les scientifiques vont devenir comment dire, anecdotiques. C'est assez, ça, c'est le truc qui me chiffonne le plus dans le Godzilla versus Kong.
Bah.
On a quand même en personnage principal hein, et c'est là où l'américanisation se finit pour moi, enfin définitif, c'est on a quand même les héros sont quand même un podcasteur conspirationniste, complotiste, on va utiliser les bons mots. On a donc Millie Brown qui revient, mais qui écoute, mais qui elle est au courant de ce qui se passe dans la vérité. C'est elle qui va aller chercher le podcasteur parce qu'elle veut comprendre des trucs, parce qu'en vérité elle n'a pas accès à tout, alors qu'elle est quand même quelqu'un qui a été aux premières loges et avec qui elle va traîner un geek in the chair littéralement avec son, enfin tu vois, et il y a un truc où là on est complètement plus loin. Les scientifiques sont là parce que de toute façon c'est son père à Millie Brown, donc ils sont là mais ils sont moins intéressants. Au moins encore dans Godzilla 2, enfin j'aime pas ce titre Godzilla, King of Monsters, il y avait encore, ce sont des scientifiques qui les cherchent, ce sont des scientifiques qui découvrent la Terre creuse, la théorie de la Terre creuse avec l'univers. Ça c'est une dinguerie qu'ils aient rajouté ça et qu'ils aient remis ça dans cet univers.
Bah, c'est, je trouve ça génial là, pour le coup. C'est une grande belle partie de Skull Island, hein, en fait, de Godzilla versus Kong. Hein. C'est toute la Terre. Il se trouve qu'il
pousse. Oui, au final, c'est.
Alors on peut reprocher. Le côté scientifique vilain, le côté, on dirait, je ne sais pas si Elon Musk ou Jeff Bezos.
Oui.
Voilà. Mais par contre, ils vont au bout du truc de la Terre creuse, des titans, avec visuellement un truc de ouf. Alors après, on traite en même temps le côté Godzilla, King of Monsters et King. Oh putain, les titres sont difficiles à dire. Et Godzilla versus Kong. Je trouvais Skull Island over the top, Godzilla versus Kong, il pousse les curseurs. Le problème, c'est qu'ils avaient fait tellement avec King of Monsters, avec le 2, un truc avec tout l'univers des monstres qui étaient ensemble, qui se bagarraient dans un truc apocalyptique, que faire plus ? Ah bah c'est la Terre creuse, c'est Kong et c'est Mecha Godzilla quand même. Hein.
C'est un Godzilla robotisé ?
Oh non, c'est Mecha Godzilla.
Comme prévu.
Ne t'en fais pas. Quand on aura chargé l'échantillon de Terre creuse,
tous nos problèmes d'énergie seront réglés.
Oui, le... Ah voilà, ça, de toute façon, c'est ma grosse déception. Alors, la preuve, on en aura quand on a préparé l'animation, je ne m'en souvenais même plus de son apparence à Mechagodzilla. Mais mon Dieu, ça, tu vois, j'ai dit que les effets étaient bons. Et que jusqu'ici, je trouvais que la photo, l'espèce de toute la direction artistique était quand même assez cohérente et réussie. Je trouve que Mechagodzilla, il fait tâche. Il est moche, il est pas réussi. C'est tu sens qu'ils ont voulu faire un Transformer, mais qu'au dernier moment ils ont enlevé les trucs qui faisaient un petit peu trop Transformer, mais comme il était déjà presque fini, on ne pouvait pas tout enlever, quoi. Oui, bah oui, depuis je sais plus quoi, là où il y en a qui sont des dinos, mais les dinos plus les robots, les enfants, ils adorent. Mais
c'est marrant, c'est, moi j'avais noté
d'où les Transformers.
Quelques notes, parce que c'est celui que les autres, je les avais découverts. Le Godzilla King of Monsters, je me demande si je l'ai vu en salle, peut-être, je suis pas sûr. Mais les autres, oui. Le Kong versus Godzilla, je l'ai vu sur ma télé. J'avais trouvé que c'était compliqué. Il y a un moment où je me suis un peu paumé dans l'intrigue. Alors, je sais pas si c'était
dans le Roi des Monstres.
Non, dans le Kong versus Godzilla, quoi.
Oui, parce que c'est pas clair.
Le côté, alors la petite, et puis alors, ils y vont, la petite fille qui maîtrise Kong dans le langue des signes.
Qui lui a appris à parler le langage des signes, quoi.
Voilà, il y a une humanité.
Ça, c'est de l'américanisation, parce que, alors après, c'est Kong. Kong, c'est le personnage
américain. En fait, il est américain finalement, presque.
Mais oui, Kong, il est américain. Godzilla, et il reste Godzilla. C'est ça qui est, pour le coup, de ce point de vue-là, c'est bien. Mais après, comme le film s'axe quand même, alors après, c'est le techniquement, on a fait Godzilla, Kong, Godzilla, et là on fait Godzilla versus Kong, mais le film reste plus axé sur Kong que sur Godzilla.
C'est vrai, parce que
pourquoi pas, puisqu'il s'agit quand même de sauver Kong de Godzilla dans ce film, donc on est quand même plus proche. Il y a une alternance, c'est assez. On en revient toujours au fait que je trouve que c'est vraiment une excellente. C'est ultra pop, c'est ultra pulp.
C'est cohérent.
C'est cohérent. Alors on n'est pas obligé d'aimer, c'est clair, parce que les titans, les super espèces géantes, comme on peut dire dans 2-3 trucs, tout le lore autour de Monarch, moi je le trouve ça pas mal, mais on n'est vraiment plus dans l'univers d'origine du Godzilla, où le Godzilla n'était finalement, comme tu disais au début, qu'un prétexte pour évoquer des thèmes, machin. Et puis il y avait un côté, le monstre qui se sont machin, qui aide les humains, mais contre d'autres monstres. Tout ça sur un regard scientifique qui permettait de justifier tout un tas de choses. Comme je dis, là, il n'y a plus de scientifiques quasiment dans... Enfin, il y en a un qui... pareil, le docteur Lin, je crois, celui qui va chercher le méchant pour traverser, pour atteindre la Terre creuse.
Oui.
Le gars qui vit dans son sous-sol parce qu'il dit que la Terre creuse, elle existe et qu'il peut y aller, mais qu'il y a l'inversion de gravité. Enfin, il est une espèce de geek pourmé, quoi.
T'avales des trucs sur le mon vaisseau il résiste parce que ok d'accord, le vaisseau il résiste à la ok bon bah voilà, c'est parti.
Mec, t'es en train de croire qu'un lézard de 200 mètres de haut vit sous de la terre, quoi.
Oui, non, mais
donc tu peux bien accepter qu'un vaisseau il se retourne.
Ah, c'est vrai qu'ils arrêtent le Mechagodzilla avec du whisky, j'avais oublié.
Ouais, en faisant tomber du whisky sur la console.
C'est quand même un truc formidable où Kong et Godzilla s'allient contre le Mechagodzilla et finalement font la paix avec le la hache, il y a Kong, il a une hache à un moment quand même. Enfin, c'est une hache un peu atomique en plus. Hein.
Mais non, une hache chargée
par
le souffle de Godzilla pour qu'il puisse détruire Mechagodzilla.
Et en plus, on t'explique qu'il y a une espèce de guerre millénaire. Tous les deux, ils menaient une guerre tous les deux pour la possession de la Terre creuse ou on ne sait pas trop quoi. Enfin, ils arrivent, je trouve, ils ont continué à développer. Finalement, ça paraît des films complètement cons. Mais ils arrivent à développer un univers. Je vais faire un parallèle un peu excessif, mais peut-être qu'on en reparlera un jour d'ailleurs. Mais on va attendre le 4 de John Wick. Ou sur des films de genre, voilà, de flinguerie, ouais, machin, il y a un univers qui se développe au fur et à mesure et qui devient vachement intéressant et qu'ils arrivent à mener. Et il y a quand même un truc où ça se suit pas mal et à la fin, ok, tu t'avances avec eux en fait.
Bah, de toute façon, c'est une proposition, ces quatre films. Soit tu rentres dedans et tu te fais plaisir parce que c'est du film de monstre, c'est du film de tatane, de débauche d'effets spéciaux, parfois à la limite du ridicule. Quand même, faut être honnête. Hein, ou tu rentres pas dedans et de toute façon, ça sert à rien de vouloir les voir parce que t'es pas le client. Donc c'est vraiment... Je pense vraiment que...
Mais... En ça, je trouve qu'en fait, cette construction sur plusieurs films, etc., pour moi, C'est ça le côté Godzilla, même japonais du départ, c'était ça. C'était un lore qui se construit au fur et à mesure. Alors les japonais à l'époque avaient leur thématique, leur façon de faire les choses. Et puis c'était une autre époque, hein, on travaillait pas de la même manière. On a échappé à bébé Godzilla, hein, c'est très bien, hein, parce que chercher, il existe, hein, le fils de Godzilla. Ou le fils de Kong, oui. Je sais plus. Non, c'est le fils de Godzilla.
Il y en a deux. Ça, voilà. Kong, je suis sûr d'avoir vu un fils quelque part.
Oui.
Bah oui, celui de 33 s'appelle le fils de Kong.
Bah, il y a la suite en tout cas, mais voilà.
Après Godzilla, c'était. Je me demande si c'est la planète des monstres, où il y a une histoire de,
oui,
d'ascendance.
Oui, si, c'est ça, tu as raison.
Il y a un moment, les films traditionnels, tu pouvais. avaient au moins ça de rigolo que. Ils reflétaient beaucoup plus une époque par certains côtés. J'ai pas l'impression que le traitement. Alors si, il y a un truc quand même qu'on peut reconnaître, c'est que le Gareth Edwards, il s'inscrit énormément dans l'après 11 septembre, dans le traitement graphique, dans le traitement des armes et tout ça. Le Skull Island, il s'inscrit aussi énormément dans l'époque du revival des années 70, 80, où on voulait remontrer un peu des choses comme ça. En plus, il devient de facto une préquelle de celui d'avant. Pareil aussi, c'est un petite tradition, puisqu'il se tape dans les années 70, et que le générique juste explique ce qui se passe à la fin du générique de Skull Island, ce qui s'est passé entre Skull Island et...
Il faut être hyper attentif au générique, il y a plein
Godzilla.
De choses dedans.
Alors, pour le coup, moi, c'est un de mes vrais petits plaisirs, je trouve que ces génériques sont géniaux.
Il y a tout un truc sur ce que deviennent les titans, sur comment ils sont gérés, sur l'après et tout, c'est hyper intéressant.
Je trouve ça génial. Ça te glisse en plus des petits détails que tu sais que tu vas te taper, enfin que tu peux taper, particulièrement le générique de Skull Island et le générique de le King of Monsters, le 2, le Godzilla 2. On glisse plein de subtilités pour la suite. J'aime beaucoup. Comme tu dis, alors, même si globalement il y a quand même un petit peu de qualité sur les 4 films au fur et à mesure, ça reste des super spectacles, ça reste des super films, mais faut les prendre en tant que tels. Faut les prendre comme une unité à eux, les quatre. Ce sera jamais le Godzilla japonais. Je sais pas comment dire autrement.
Moi, je trouve qu'il y a vraiment un truc où ils ont compris, peut-être grâce à l'espèce de d'OVNI qui a été le premier Godzilla de Gareth Edwards. Après, je trouve qu'ils ont compris le côté débauche, mais le côté univers... partie d'un tout, voilà, c'est pas juste un monstre qui détruit et tout, il y a vraiment un truc en plus, et je pense que ça, c'est vraiment l'esprit Godzilla, avec d'amener des thématiques, d'amener des personnages. Alors, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'ils ont du mal à tenir les personnages sur... Alors évidemment, comme tu dis, Skull Island était une préquelle, donc il n'y a aucune raison que les personnages passent de l'un à l'autre.
D'où le fait qu'il y en a autant de morts, ce qu'on n'aura quasiment pas après.
Voilà. Ils en ont gardé deux, principalement... De quoi ?
Watanabe qui meurt dans King of Monsters. C'est le seul.
Bah oui, il se sacrifie pour une très belle scène, dans un truc très beau d'ailleurs, pour redonner vie à Godzilla avec une bombe et tout. Alors c'est vrai que c'est souvent un peu over the top, mais je trouve qu'il y a un vrai esprit comme ça.
Au revoir vieil ami, goodbye old friend.
C'est magnifique quoi. Mais il y a un vrai esprit de sériel aussi quand même.
Oui.
Où est-ce qu'ils vont ? Mais alors effectivement, est-ce qu'on est plus sur du sériel à la Burroughs avec le John Carter of Mars ou Tarzan, plutôt que le sériel à la japonaise sur le Godzilla,
ou même du monter un petit peu plus loin, tu peux aller vers du Conan Doyle avec celui qui avait créé le monde perdu,
le monde perdu.
Avec un scientifique qu'on voit dans deux autres bouquins. Enfin, non, on est plus dans ce côté-là. On n'est vraiment pas dans la culture japonaise pour le coup.
Oui, évidemment, mais il y a un côté, moi je trouve que c'est quand même une belle continuation et pour moi une belle relance. Alors évidemment, on est dans une culture occidentale qui est très américanisée, donc peut-être qu'elle me paraît plus générique parce qu'elle est moins typée japonaise, mais je pense qu'il y a un vrai truc où ils ont su quand même redonner une espèce de lettre de noblesse à une série qui était quand même assez fatiguée il y a 20 ans, pour donner quelque chose qui donne de se poser la question de voir la suite. Alors, je reconnais que je ne sais pas trop où ils vont. Là, ça devient Kong est redevenu le roi
de la Terre souterraine.
De la Terre creuse. Génial, ça, parce que pareil, t'avales ça, c'est formidable quoi. Oui, la Terre est creuse. Bon, ok. Bon, bah, vendu. Alors, le truc, effectivement, le truc de complotiste ultime, quoi, tu vois.
Ouais.
Bon, ok. C'est, je trouve que c'est presque le reproche que je peux faire, c'est que c'est tellement bien vendu que tu dis putain, ça fait chier parce qu'il y a encore 2-3 dingos qui vont nous dire c'est trop bien. C'est les mêmes qui nous disaient que si Stargate elle doit exister, ils en ont fait une série comme ça, on dit, que, comme ça, on dit qu'elle n'existe pas parce que c'est un truc de fiction. Ce qui est vrai, ce qui est très malin à faire entre nous. Hein, de...
Non, mais ça me fait rire. Non, mais, je vais pas revenir là-dessus parce que ça m'agaçait.
Oui. Mais il y a un côté, voilà, je trouve moi qui mène quelque chose, pas tranquillement, mais presque. Je trouve qu'il y a un côté, ça marche, mais c'est pas non plus. Il y a un petit côté, ils sont un peu moins exposés que Marvel, que DC, que Star Wars, que plein de trucs, et ils mènent leur petit bonhomme de film petit à petit avec plaisir. Et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose. C'est aussi en ça que je trouve qu'il y a un esprit dans les Godzilla du Japon des années 60. Parce que voilà, on fait nos films avec les moyens qu'on a. C'est des films qui, le troisième, il n'y a pas le budget du dernier. Hein. Mais le troisième va coûter 170 millions de dollars, ce qui est pas, ce qui est des gros films. Mais je trouve que sur des gros blockbusters comme ça, on est en dessous de 200 millions quand même. Donc voilà, bon, c'est très...
C'est vrai qu'on n'a pas le budget de Godzilla versus Kong. Pourquoi donc ?
Je ne sais pas. Mais voilà, alors après, il a un peu moins bien marché. Peut-être qu'il... C'est marrant, c'est que... c'est vrai que les deux derniers ont fait 100 000 au box-office US simple. Beaucoup plus dans le reste du monde. Alors après, les Américains, des fois, sont chiants là-dessus parce qu'ils veulent produire. Alors, c'est des coproductions aussi, donc peut-être que le fait que ça marche à l'étranger, c'est important, mais ils sont un peu...
Ils sont liés au marché domestique.
C'est un peu compliqué, mais je pense qu'ils sont prêts à continuer parce qu'il y a quand même... Il y a un retour critique qui est...
Alors, c'est Legendary qui produit depuis le début. Et dès que le premier a marché, ils ont annoncé qu'ils avaient récupéré les droits et ils ont même changé... Puisque le premier était produit par Universal, pour être ensuite produit par Warner. Ils ont changé de distributeur. Donc ça veut dire que je pense que pour le coup, la question du marché domestique existe, mais qu'elle va être moins prégnante que dans d'autres cas, parce qu'on est quand même sur des films, donc le plus faible, c'est 470 millions de dollars. Quoi.
Non, mais...
Oui, c'est pas les chiffres de Marvel, mais on parle d'un box-office mondial à 470 millions. Faut pas déconner, Godzilla versus Kong, la promo, elle était pas énorme. Donc même avec la promotion, si le budget il est à 100, mettons 150 000 ou 170 000 comme le Roi des Monstres, ils ont de la place, ils ont de la marge. Hein.
Ouais, non mais... c'est...
Et les films en plus ont globalement plus ou moins les mêmes critiques et le même résultat critique.
Et qui est pas mauvais, qui est...
Le Roi des Monstres se prend une claque, mais parce que je pense que le côté full monstre, il y a trop de bagarres. Pour faire simple.
Oui, c'est possible.
Par rapport aux trois autres. Mais après, c'est une question de point de vue.
Ouais, non, mais ça n'empêche que vraiment, je suis persuadé que c'est vraiment quelque chose d'intéressant et de profondément dans l'esprit de ce qu'était le Godzilla japonais. Quoi.
Ah, moi non. Il y a un traitement du personnage et il y a surtout une mise en scène du personnage pour moi qui n'est pas celle qu'avaient les Japonais. Les films japonais, et c'est vrai que du coup, ça m'a, d'avoir préparé la mission, ça m'a surtout donné envie de voir la trilogie qui est ressortie officielle de la Toho, de ces trois Godzilla, 2017, 2018, 2019, là, parce que du coup, j'aimerais bien avoir une vraie comparaison en termes de style de traitement, parce que je pense que ça peut être très très intéressant.
Voilà, c'était notre clash à propos du Monsterverse de Legendary Pictures avec Godzilla versus Kong, Kong Skull Island et qu'est-ce qui m'en manque ? Oh là là, c'est compliqué. Hein. Bon.
Godzilla,
ouais.
Kong Skull Island, Godzilla 2, Roi des Monstres, Godzilla versus Kong. Voilà. Et en 2024, un nouveau film.
C'est exactement ça.
Qui est en pré-prod.
Si, comme moi, vous pensez que c'est un vrai renouveau et une vraie continuité positive du Godzilla des années 60, même si c'était un bonhomme en costume, eh ben, vous savez où aller voter sur le site pour me soutenir.
Et si vous pensez, comme moi, que c'est un remake... enfin, que c'est un vrai retraitement, nouvelle présentation du personnage qui est Godzilla, bah vous votez pour moi sur le site.
Donc le site, c'est www.thebroclash.fr. Et puis vous votez, et puis n'hésitez pas à réagir sur le Twitter du Broclash, thebroclash. On peut te retrouver où sur Twitter, toi ?
Moi, c'est Arnaud Doucet, A-R-N-O-D-O-U-C-E-T.
Et moi, je suis Laurent Doucet, L-A-U-R-N-T-D-O-U-C-E-T. Quoi dire ? Bah, pas grand chose.
Bah, si ce n'est que.
Si.
On remet. Oui.
Vas-y. Si, juste un truc, j'ai regardé, j'en profitais là. Legendary Pictures, c'est quand même des. C'est une boîte très particulière de production, hein, qui bosse depuis les années 2000, qui a démarré avec Batman, en fait. C'était les producteurs de Batman Begins.
Oui.
Et,
De Nolan.
Mais alors, ils ont fait beaucoup de choses, du Very Bad Trip, du Watchmen, du Inception. Ils ont fait tout Nolan, des Godzilla, du Interstellar, évidemment.
Le 300 de Zack Snyder.
Bon, ils ont fait le Detective Pikachu, c'est eux aussi, hein, quand même.
Oui.
Le Pacific Rim Uprising, c'est eux. Mais juste pour te dire, ils produisent Dune, de Denis Villeneuve. Ouais. Juste pour te faire les Enola Holmes, c'est eux, par exemple. Et ils ont un projet en 2023. Un film qui va s'appeler The Toxic Avenger.
Oui, le remake du Toxic Avenger par Macon Blair. Je pense qu'il y a du potentiel pour qu'on refasse un...
Je me demande si c'est pas le...
Un rip-off de notre épisode.
Tu sais, je me demande si c'est pas le premier épisode qu'on ait fait. Non, c'était Drive.
Drive.
Mais le Toxic Avenger doit être le 2 ou le 3e.
Oui, c'est peut-être. En tout cas, je pense qu'il est très 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 probable que nous reparlions de cette histoire, parce que à mon avis ce sera peut-être un bro crash, ce sera peut-être on va en reparler, parce que je pense très 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 honnêtement que c'est pareil, Toxic Avenger, c'était notre épisode 3 et il y avait une tonalité et un style. D'ailleurs, l'épisode, je l'avais baptisé Nanar ou Anar. Il y a vraiment ce côté anarchie caricatural et surtout critique sociale.
Comment refaire ça ?
Ouais, voilà. À notre époque, actuellement, dans les conditions globales actuelles de... Comment dire ? Enfin, ça pourrait être pris tellement de façon... comment dire ? Enfin, c'est très très. Ça va être extrêmement intéressant. C'est quand même le gars qui a fait Logan Lucky.
Ah oui.
Enfin, qui a bossé comme acteur dans Logan Lucky. Parce qu'en réalisateur, il a fait un truc qui s'appelle I Don't Feel at Home in This World Anymore. Ah ouais, tiens. C'est aussi une tonalité un peu particulière. Il a pas mal travaillé sur des choses un peu décalées aussi. Il a fait la série Swamp, qui est adaptée du DC Comics Swamp Things.
Ouais.
Il jouait dedans, pardon, dans la série. C'est quelqu'un qui a un drôle de profil. On va
pour
voir.
Pour finir, tu sais qui va jouer le Toxic Avenger ?
Non, j'ai pas vu, tiens.
Peter Dinklage.
Peter Dinklage ? Mais c'est un nain
de Game of Thrones.
Ok.
On va pas aller plus loin. Voilà, bon, on sera notre idée.
Il y aura aussi Elijah Woods et Kevin Bacon. Pour info dans le casting.
Ça va être à voir.
Sans rôle crédité. Ça sent tellement... Enfin, soit c'est ultra potache et on sera très très loin de l'original du coup. On verra. On en reparlera à ce moment-là. On va pas sortir. Là, on est parti sur autre chose.
Merci de nous avoir suivis. Au plaisir. Et puis d'ici là, on se retrouve la prochaine fois. Et puis cultivez-vous bien.
Cultivez-vous bien.